Vous écoutez
RMC. RMC jusqu'à minuit 30, l'after foot.
Gilbert Bribois.
Il est minuit et une minute. Et l'after continue encore pendant une petite demi-heure avec les drôles de dames qui nous rejoignent. Attends, un petit jingle drôle de dames. On le met pas assez souvent, ce jingle drôle de dames, qui est toujours appréciable. Voilà. Paulo Breitner est avec nous. Paulo, bonsoir.
Bonsoir, mon cher Gilbert. Bonsoir, tout le monde.
Julien Laurence est là également. Salut, Julien.
Salut, Gilbert. Salut à tous.
Johan Crochet, évidemment. Johan, bonsoir.
Bonsoir, Gilbert. Bonsoir à toutes et à tous.
Et Fred Hermel. Salut, Fredo.
Ça picote un petit peu ce soir. Hola, chicos.
Je veux que chacun démarre avec son bilan. Genre Johan, 2 sur 2, tu vois, je veux des chiffres.
Ah oui, bah ça y est, bah,
je veux entendre
2 sur 2, 0 sur 2, 1 sur 2, je veux entendre. Je veux savoir qui sont les hommes qui nous parlent.
Zéro.
Oui, mais sur combien?
Sur 2.
Ah bah voilà, faut le dire.
Oui, alors bah l'Italie?
Bah 2 sur 2, Daniel l'a déjà dit.
Voilà. Mais...
L'Angleterre?
Une victoire, un match nul pour moi, donc invaincu ce soir.
La petite valorisation.
Toujours, quand même. Toujours.
Et Polo ?
1,5 sur 3, c'était ce qui était prévu.
Démarrons par le match de la poule de l'OM, si vous le voulez bien. Eintracht Francfort-Tottenham, qu'est-ce qu'il y a
Polo,
à redire ?
Il y a 3 équipes qui jouaient ce soir.
Oui, ouais, je te jure, je suis en train de faire greffer un troisième œil, ça devient compliqué. Hein.
Ah oui, non, mais c'est rare, normalement, il y a 3 qui jouent le même soir, c'est peu fréquent.
Ben là encore, on avait le droit d'avoir le match à 18h45, mais lors de la deuxième journée, ils ont mis les 3 en même temps, c'est assez compliqué. Mais bon.
Qu'est-ce qu'il y a à dire sur ce match Francfort-Tottenham, Polo ?
Bah écoute, en fait, c'est un match, bon, pour moi, j'ai vécu émotionnellement un très beau match, mais c'était pas un beau match techniquement parlant. Il y a beaucoup d'erreurs techniques des deux côtés, notamment du côté de Francfort. J'ai envie de dire que Tottenham était un peu meilleur en tout, était un peu meilleur partout, mais tu sens en ce moment que Tottenham, c'est pas le grand Tottenham qu'on voudrait voir, etc. Et comme t'as une équipe en face qui, au niveau européen, bah, ils ont quand même accroché quelques équipes, etc., de renom, et ben, le 0-0 à la fin de la rencontre et pas galvaudé. Alors tu peux toujours venir en première mi-temps en disant est-ce que Kane, ça a manqué de justesse que de Tottenham, non, est-ce que Son, s'il prend le cadre, ça fait but, si Kane était un peu mieux ce soir, ça fait but aussi. Moi ce que je vois, c'est que c'est pas un grand Tottenham et c'est un Francfort qui sait tenir ce genre de rencontre et j'ai presque eu un moment, je me suis même dit pendant un moment, ils vont en planter un dans les 10 dernières minutes, même si encore une fois, quand tu vois Tottenham, tu sens qu'ils sont plus forts que Francfort. Et c'est à mon avis, enfin je parle sous le contrôle de Jules, c'est un Tottenham à 80-85% qui est sans doute un peu en crise avec ce qui se passe avec Conte, la défaite contre Arsenal et tout ça. Mais moi je considère que c'est un bon point parce que c'était ce qui était prévu. Donc voilà, 0-0.
Julien, tu dis quoi ?
Ben, ils ont des regrets, ils ont beaucoup de regrets ce soir, parce que comme Polo l'a dit, surtout en première période, il y a les deux grosses occasions. La première sur le centre de Son, qui sent peut-être un tout petit peu trop fort, ou je sais pas ce que Kane fait, mais ça doit être un plat du pied, tranquille, pied droit pour Kane, il est devant le but. Et le ballon passe très vite devant lui, il effleure juste de la cuisse, et puis après il y a la frappe de Son aussi qui est hors cadre, qui doit être cadrée, peut-être même celle de Kane avant aussi, à l'entrée de la surface, qui est au ras du sol, qui doit être cadrée, qui est pas cadrée. En général, dans cette position-là, et Son et Kane, quand ils sont vraiment en confiance, en tout cas, ils ratent pas le cadre. Après, ça veut pas forcément dire but, mais ça rate pas le cadre. Et c'est vrai que ça, c'était décevant. Après, ils prennent pas de but, même si défensivement, il y a une ou deux frayeurs quand même sur la reprise, la volée de Knauf, par exemple. Il y a quelques situations un peu compliquées. Mais c'est un point qui les arrange pas trop. Même si c'est à l'extérieur, ils vont prendre le point. Et c'est un match qui a ressemblé un petit peu par moment à celui du Sporting où ils avaient perdu dans les dernières minutes. Là, au moins, ils ont pas perdu, mais c'est pas non plus quand même un point qui, quand tu vois comment le groupe est serré avec le Sporting avec 6 points, ensuite 4 et 4 pour Francfort et Tottenham et Marseille même avec 3 derrière maintenant, ça reste quand même vachement serré, donc c'est un point, voilà, ils le prennent, mais c'est pas non plus la meilleure des affaires qu'ils aient pu faire.
Effectivement, Sporting 6 points, Tottenham Francfort 4 et l'OM 3. Alors l'autre affiche du soir, c'était bien sûr Inter Milan Barcelone. Johan, je te donne la parole puisque c'est l'Inter qui a gagné. Est-ce que tu estimes cette victoire totalement logique ou alors est-ce que tu émets quelques réserves ?
Logique, je suis pas certain.
Oui.
Disons que l'Inter a beaucoup, beaucoup, beaucoup souffert, ça c'est clair. Après, on s'attendait évidemment à ce type de configuration de match où c'est le Barça qui a le ballon et où l'Inter défend. Honnêtement, ce soir, tu peux pas retenir grand-chose tactiquement, sur le plan du football, etc. Ce que tu vas retenir, c'est qu'ils ont retrouvé un état d'esprit qu'ils avaient un peu perdu, où depuis quelques semaines, les joueurs s'engueulaient sur le terrain, où quand il y en a un qui ratait quelque chose, il se faisait reprendre immédiatement par un coéquipier, où ils abandonnaient très rapidement quand il y a à la moindre difficulté. Et ce soir, tu as vu tout l'inverse. Tu as vu, en fait, ce qui a fait la force de l'Inter depuis que Conte a un peu ramené cet état d'esprit à l'Inter et qui a été perdu là en ce début de saison. Donc, on va dire que c'est une victoire sur le plan du courage, de l'état d'esprit, de l'abnégation, mais ça c'est pas vraiment du football pur quoi. Mais sur le plan du terrain entre guillemets, à part dire qu'ils ont passé leur temps dans leurs 30 mètres et que Dzeko en bon Samuel Eto'o a fini les 5 dernières minutes en arrière gauche. Bon bah il y a pas grand chose à retirer. Après ce qui est très bien pour l'Inter, c'est que ce type de match là contre un grand club, en montrant justement qu'avec l'état d'esprit, tu peux arriver à certaines choses, à résister, même quand tu es en difficulté physique, notamment parce qu'il y a toujours ce vrai problème-là, bah, c'est peut-être le début d'une série pour l'Inter où ils vont se dire, bon allez, on se remet dans le bon sens. C'était un peu le propos de Mkhitaryan à la fin du match, de Lautaro Martinez, en disant, à partir d'aujourd'hui, tout change. Donc on verra ce que ça va donner dans les semaines à venir. Mais honnêtement, ils ont souffert énormément ce soir.
Je trouve peu enthousiaste pour ce qu'a fait l'Inter quand même, parce que
ils ont défendu quoi.
Bah oui, puis après.
Ouais, mais c'est quand même c'est une perf dans le sens où t'as un Barça qui est en pleine forme et un Inter qui est vraiment pas bien en ce moment, qui est même décevant depuis le début de la saison, qui est un peu même largué un peu au classement et qui fait un résultat un peu. Vraiment toute proportion gardée, mais forcément Inter-Barça c'est tellement resté dans la légende, le match de 2010, que dès que tu vois ces deux noms t'y penses. Et parfois, par moments ce soir, quand je les voyais un peu défendre un peu le cul par terre,
il y a des souvenirs,
une ou deux fois remontent. J'ai eu un vague souvenir de ça. Évidemment ça n'a rien à voir, mais bon, forcément j'y ai repensé. Et en plus l'Inter a priori c'est pas une équipe qui est montée pour jouer comme ça, pour mettre des savates, pour jouer un peu à l'envers et tout, mais ce soir ils ont pas pu faire grand-chose de mieux.
Regarde le milieu de terrain aligné ce soir. Quand tu prends le milieu de terrain aligné ce soir, tu as Mkhitaryan, tu as Çalhanoğlu,
dans le rôle un peu de Brozovic.
Exactement, il n'y a pas de vrai 6, donc c'est pas un milieu de terrain qui est monté comme ça, mais c'est pas une question d'enthousiasme ou pas. La lecture, elle est claire du match. T'as énormément souffert, tu le refais 10 fois ce match-là, tu le perds 9. C'est très bien pour l'Inter, ce que je dis, c'est que ça peut amener une série, montrer que sur le plan de l'état d'esprit psychologique d'une équipe qui est au fond du trou, bah, ils peuvent se servir de ce match-là pour entamer un nouveau cycle maintenant. Mais après, il faut être lucide aussi sur la performance de l'Inter. Et ils ont pas vu le ballon, quoi.
Non, mais c'était prévu. Mais j'imagine que c'était prévu. Ils ont joué le contre. Ils ont souvent mis le Barça en danger en contre.
Il y a eu quand même
deux trois frayeurs parfois. Alors le Barça a bien joué la ligne de du hors-jeu justement pour éviter que ça soit plus grave que ça, mais on sentait quand même la menace quoi.
Bon, et après Fredo, ce qu'on peut souligner aussi, ça arrive vraiment très très peu avec le Barça et le Real, mais ils se sont fait un peu fourrer par l'arbitrage, ça fait pas de mal.
Alors,
ouais, je comprends pas la main là.
On va aborder le sujet. Comme on était sur le jeu, on va parler du jeu avant de parler de l'arbitrage.
Le gros problème
du Barça, ça a été le milieu de terrain encore une fois. C'est-à-dire que le Barça de Xavi, il est a priori construit sur le milieu de terrain. Ce soir, c'est encore Pedri, Gavi et Busquets, et ça n'a pas fonctionné ce soir. On a vu le même Barça, on en parlait hier soir dans les drôles de dames. On a vu le même Barça qu'à Majorque ce samedi. Sauf que c'était Mallorca en face samedi, là il y avait quand même l'Inter, et sauf que Lewandowski dans les victoires 1-0 du Barça a fait un exploit personnel. Ce soir Lewandowski, il a été extrêmement bien pris par la défense de l'Inter. On l'a pas vu Lewandowski, il a essayé de faire des appels, il a essayé de se battre.
À un moment j'ai oublié qu'il était là.
Ben oui, alors il s'est battu, il a bougé, sauf qu'il a pas eu une seule occasion. Et si je dis pas de bêtises, c'est deux tirs cadrés pour le Barça ce soir. Les inquiétudes qui étaient nées de samedi soir à Majorque, on se disait oui, mais bon, et j'étais le premier à le dire, le Barça, dès qu'il y a une coupure internationale, le temps que reviennent les internationaux, ils sont toujours du mal, etc. Sauf que là, ce soir, c'est inquiétant. En plus, la défense, la blessure d'Araujo, qui n'était pas là ce soir, la blessure de de Jules Koundé. Et ce soir, Christensen, le Barça vient de communiquer qu'il avait une grosse entorse à la cheville. Donc, c'est problématique pour les semaines qui viennent. Et notamment le match aussi contre le Real dans une dizaine de jours, quoi. Donc, le Barça n'a pas bien joué ce soir. Moi, il y a un seul mec que j'ai vu à peu près dans le ton du côté du Barça, c'est Ousmane Dembélé. Parce que c'est, je sais pas si t'es d'accord, Johan, mais c'est le seul qui était un peu virevoltant, même s'il a fait de mauvais choix. Mais le reste, c'était pas.
Ouais, c'est ça. Il a amené de la vitesse, mais en fait, ouais. Il faisait un peu toujours la même chose.
Oui, oui.
Le même
alors,
sens,
mais c'est ça. Alors,
le peu dangereux et.
Ouais, alors la même chose, c'est ça. Ce soir, on a vu un Barça très prévisible, et comme il n'y avait pas de créativité, d'originalité dans la création au milieu de terrain, bah automatiquement, le Barça a été assez plat. Et puis après, il faut quand même reconnaître que l'arbitrage n'a pas été favorable pour les Catalans, quoi. Enfin.
Ah bon. T'as remarqué ça, toi?
Non, mais bon, attends.
Les mecs, alors, peut-être
s'il y a pas pénalty, s'il y a pas,
mais je comprends pas, en fait, les mecs du VAR, ils servent à quoi? Enfin, Dumfries, ils touchent vraiment pas le ballon de la main?
Alors, l'explication qu'il y a, que moi j'ai lu.
Il y a une explication.
C'est que, il aurait touché, le ballon lui aurait effleuré la tête avant de toucher la main, donc c'est considéré comme un rebond. C'est un peu capillotracté.
Ah, mais le meilleur moment de VAR de la soirée,
c'est pas trop sur ça, en fait.
On va en parler tout à l'heure.
Ah là, c'est pas trop sur cette action-là, moi, je trouve, parce que, honnêtement, alors je sais pas.
C'est sur le but du Barça lui, tu veux dire.
Ah ouais, parce qu'à la télé italienne, la main de Dumfries, on la voit pas, en fait. On n'a pas d'angle précis qui montre que le ballon est touché clairement par la main.
Comment le ballon, il peut aller dans cette direction s'il touche pas la main? Ah, autant mais, l'explication ouais, de Fredo, bon, bah, pas... maintenant je vois ce qu'il veut dire, mais sinon.
Mais le VAR, c'est pas une supposition, en fait. Il faut qu'il y ait une image claire.
On est d'accord. Donc,
oui, ça s'appelle une erreur manifeste.
Sauf que l'image.
L'erreur manifeste, pour moi, elle est sur. L'erreur, elle est sur le but annulé, parce que justement, je suis retourné voir dans l'IFAB, parce qu'il y a les documents et tout. Et c'est bien précisé que tous les contacts avec la main ne sont pas une faute, entre guillemets, et c'est même précisé, les mains accidentelles par un coéquipier juste avant de marquer un but, jusqu'à avant qu'un but soit marqué, a été, c'est-à-dire un texte de 2022, a été supprimé des lois du jeu, donc maintenant ce n'est plus considéré comme une main.
Fredo, tu en Espagne, si tu veux alimenter, ça peut être rigolo, alimenter un petit complot et tout, il était de quelle nationalité l'arbitre ce soir? Il me semble slovène.
Oh
le scandale.
Ah ben le Barça, ça marche mieux avec les Turcs. Hein.
Oh le scandale.
Monsieur
il était pas turc. Non, Monsieur Aytekin est allemand.
Oui,
ah oui, c'est vrai, allemand.
D'origine turque. Non, mais et puis il y a aussi monsieur le norvégien, monsieur Ovrebo, le match de Chelsea.
Oui, fucking disgrace. Parce que lui, après, il a fait des gâteaux, donc on a oublié. Mais ce soir, il était slovène.
Bon, alors.
A-t-il pris un coup de fil de Seferin contre ses ennemis de la Super League?
Pour conclure,
alimente-moi ce complot, bordel!
Oh là là, bah écoute.
Fais quelque chose!
Oui, parce qu'en Espagne, on n'a pas parlé du tout de ça.
En tout cas, le match retour,
non, ce soir, c'est ce qu'on fait.
Si tu ne trouves pas une trace de cette remarque demain dans les médias espagnols, demain soir, tu viens, tu me mets un carton.
Je vais regarder.
Je suis sûr que tu trouves une trace de ça demain.
Le truc qu'il y a ce soir, non, c'est que le Barça fait ses calculs. Parce que le problème, il est là.
Oui, le match retour la semaine prochaine, il est chaud, là. Sinon, c'est l'Europa League.
S'il n'y a pas de victoire contre l'Inter, le Barça aura du mal à se qualifier.
Bah, sinon, c'est l'Europa League, ils deviennent habitués, là.
Le Bayern et l'Inter sont deux grands amis. La dernière journée, il va se passer plein de choses.
Alors, tu as un truc à dire sur le Bayern, d'ailleurs, ils ont éclaté Pilsen 5-0, je crois.
Oui, non, il n'y avait pas grand-chose à dire sur cette rencontre, c'est plié. Ce qui est bien, c'est quasiment tous les joueurs à vocation offensive ont marqué ce soir, encore Mané. Évidemment, Sané, quand il joue comme ça, à mon avis, c'est l'un des meilleurs milieux offensifs du monde, si on doit considérer que c'est un milieu offensif. Non, c'est très bien. En plus, le Bayern a pu faire tourner pour le match contre Dortmund ce week-end, donc impeccable. Quoi.
Alors, passons à la poule de Liverpool qui a battu les Rangers, un duel britannique. Comme Julien Laurence les aime, bon, évidemment, Liverpool a gagné.
Et Alex Ferguson était en tribune, dis donc.
Ouais, bien sûr, puisque
il était venu soutenir Liverpool.
Rangers. Non, il a joué pour les Rangers, mais c'est la première fois qu'ils se rencontraient dans toute l'histoire. C'est quand même bizarre. Enfin,
c'est dingue, ça.
Première confrontation européenne. C'était jamais affronté.
Ah, ça, c'est incroyable.
Et puis, il y a toujours une atmosphère particulière, forcément, quand t'as encore plus entre l'Écosse et. et l'Angleterre. Donc c'est vrai que c'était un match très attendu aussi pour voir si Liverpool allait sortir un petit peu de sa mini crise et des problèmes, des difficultés qu'ils ont eu depuis le début de la saison. Klopp a changé son système. Il a joué en 4-2-3-1. Donc il a changé son 4-3-3 habituel. Lui qui d'habitude en change jamais puisqu'il avait fait que quelques fois. La dernière fois en 2020 contre Manchester City en championnat, c'était même plus un 4-2-4 vraiment parce qu'on avait et Jota et Diaz et Darwin Núñez et Mo Salah aussi. On a vu une équipe de Liverpool plus structurée, on va dire, défensivement, sans ballon. C'était un vrai 4-4-2 sans ballon où on a beaucoup aidé Trent Alexander-Arnold par exemple sur son côté, lui qui avait été encore à la ramasse défensivement contre Brighton. On en parlait encore avec Johan l'autre jour. On les a vus dans la
mais lui, c'est quoi son problème en fait? Il a pris le boulard. Qu'est-ce qui s'est passé avec lui?
Non, je pense
que. T'as dû en parler le lundi. Je suis désolé de te faire redire.
Non, mais c'est pas ça. Non, mais de toute façon, c'est un débat. Tu sais, depuis le match de Brighton samedi, on fait que d'en parler en Angleterre entre ceux qui disent voilà ce qui fait pas bien. Et d'ailleurs, tu le vois dans l'attitude, notamment dans l'attitude défensive, dans le manque d'effort, c'est trop limite en fait pour un joueur de sa qualité de ce niveau-là. Tu peux pas ne pas, par exemple, quand t'es battu en dribble, ça peut arriver. Tout le monde peut se faire dribbler, mais de pas trop tourner, d'accélérer pour essayer de récupérer le ballon ou de récupérer une erreur que t'as pu faire. Et ben lui, il est assis par terre, et ben il reste par terre, il se lève pas, il y a rien, tu vois, il y a clairement un gros manque d'effort dans ce qu'il a pu faire récemment défensivement. Surtout, il y a un problème de positionnement, souvent il y a un problème d'attitude défensive, c'est-à-dire qu'il est souvent positionné, il tourne son corps du mauvais côté par exemple, il est pas, voilà, il y a plein de choses, il regarde pas assez le joueur sur lequel il défend dans son dos. On peut faire toute une liste des erreurs qu'il a faites cette saison. Il est pas le seul, et parfois je pense qu'il manque aussi de soutien, c'est-à-dire que Salah défend pas assez, que le milieu côté droit défend pas assez non plus, vient pas l'aider assez. Parfois il se retrouve en 2-1, voilà, il y a plein d'erreurs. Mais avec le ballon, il est tellement fort, on l'a vu sur le coup franc qu'il met après 7 minutes de jeu ce soir, qui finalement déclenche tout pour Liverpool, enlève beaucoup de pression. D'ouvrir le score si tôt, ça les a beaucoup aidés. Après, ils auraient dû marquer plus que 2 buts. Ils ont eu des grosses occasions. Darwin, Jota, Luis Diaz aussi. Donc au final, c'est une victoire importante. Dans la construction du jeu aussi, pour finir, on a vu des choses très différentes. C'est-à-dire que cette saison, je pense qu'ils étaient bien trop ambitieux dans la construction du jeu. Il y avait trop de joueurs qui allaient vers l'avant et ça les exposait beaucoup défensivement. Là, c'était un peu plus mesuré, on va dire. Et forcément, à la perte du ballon, vu que t'as moins de joueurs en phase offensive devant le ballon, et ben c'est plus facile de gérer les transitions offensives adverses. Donc il y avait des choses un peu différentes de d'habitude.
Okay.
Et c'est une belle victoire avant le match d'Arsenal samedi en championnat.
Julien, on va te laisser parce que on a parlé de tes clubs. On a plus besoin de toi.
D'accord. Bah, je voulais juste dire très rapidement. Tout à l'heure, je suis monté dans le métro ce matin à Londres. Et donc, je m'assois et en face de moi, il y a un gars et il me dit, excuse-moi, Julien. Il monte son téléphone. Il est en train d'écouter l'after d'hier soir. Donc, c'était marrant qu'on se rencontre comme ça. Donc, voilà, je voulais faire une petite dédicace à Ali. Grand fan de l'after, grand fan du PSG. Donc, voilà, c'était sympa.
Julien Laurence prend le métro. Waouh!
Mais tous les Londoniens prennent le métro.
Dis pas trop fort quand même. Tes amis à l'île de Ré pourraient entendre et on se dire c'est quoi ce sans-dents, il revient plus jamais à l'île de Ré.
Alors entre les embouteillages,
le métro, ça va pas ou quoi?
Et le péage du centre-ville, croyez-moi, c'est beaucoup mieux de prendre le métro à Londres.
Oui,
parce qu'on a un péage nous. Eh oui, péage du centre-ville.
Bientôt à Paris.
T'es en train de nous dire que t'habites pas dans Mayfair.
Pas encore. Si j'avais ton salaire, je pense que j'habiterais dans mes fers.
Oh, elle est pas mal celle-là.
Karim Nejari, Laurent Salvadon, si vous écoutez, hein, avec plaisir.
Salut Julien.
Ciao,
demain soir. Naples.
Un choc quand même, apprendre qu'il vit pas dans le centre de Londres.
Naples, leader de la Serie A, qui a éclaté l'Ajax 6-1. Là, ça commence à devenir du sérieux, là, Johan.
Oui.
Ah, ils ont mis une danse à l'Ajax et je peux vous dire que c'est pas arrivé souvent dans l'histoire. J'ai même pas envie de parler des stats qui sont sortis, vous les retrouverez partout demain je pense sur tous les records qu'a battu Naples vis-à-vis de l'Ajax, les plus grosses défaites de l'Ajax depuis 60 piges, ce genre de trucs là. Mais
moi au moins juste ça, ils avaient déjà pris ça à la maison.
Alors ça fait la dernière fois qu'ils avaient perdu avec autant d'écart, c'était en 64 contre Feyenoord, et la dernière fois c'est la première fois en Coupe d'Europe qu'ils ont pris 6 buts à la maison. Donc voilà, c'est
ils n'en avaient pas pris une belle contre le PSG une année là récente. Bon, enfin, bref.
C'est assez incroyable honnêtement, et j'ai même pas envie de parler des 20 dernières minutes où l'Ajax était à 10 puisque Tadić s'est fait expulser un peu bêtement, mais il y avait déjà 5-1 à ce moment-là. Ce que je disais à Daniel à la mi-temps, c'est qu'à la mi-temps il y avait 3-1, s'il y avait 6-1 à la mi-temps, donc le résultat final, il n'y avait rien à dire. C'est-à-dire que le tarif ce soir 6-1, c'est le strict minimum. Parce qu'il y a eu d'autres occasions, Ndombele a touché la barre, Kvaratskhelia a tiré à 2 cm du poteau, il y a eu des arrêts aussi de passes vert. Honnêtement, ils ont... Moi, ce qui me plaît, c'est en fait, au-delà même de la victoire, parce que ça peut être aussi une soirée où tout est réussi, etc., c'est qu'ils sont allés à Amsterdam en se disant « Nous, on joue comme ça. » Avec Spalletti, il nous a enseigné la manière de jouer avec le contrôle du ballon, avec chercher à la récupérer le plus rapidement possible. Et ben Ajax ou pas Ajax, l'école hollandaise ou pas l'école hollandaise, les héritiers de Cruyff ou pas les héritiers de Cruyff, on va aller à la Johan Cruyff Arena et on va prendre le ballon, on va pas leur donner, et quand ils vont l'avoir, on va leur mettre une pression de dingue pour le récupérer rapidement. Et ça, c'est une attitude, un courage qu'on voit trop peu souvent, notamment d'équipes italiennes en Coupe d'Europe, mais pas forcément que d'équipes italiennes. Et honnêtement, cet état d'esprit-là, ce courage, cette volonté de jouer son propre football à l'extérieur, sur la pelouse de l'Ajax. En fait, il y a un truc qui est très marquant, c'est Capello, il a, sur Sky, là, qui est consultant sur Sky, à la fin, il a dit un truc du genre, on a donné une leçon à une équipe qui a donné des leçons à tout le monde pendant des années et des années. Et honnêtement, ce soir, c'est une fête totale à Naples, évidemment. En Italie aussi, tout le monde souligne l'excellent travail de Spalletti, dont j'avais déjà parlé il y a quelques semaines dans l'after.
Alors justement, juste rapidement là-dessus, en plus Fred s'en souviendra parce qu'il est là, et nous, c'était les débuts de l'after. Spalletti a eu une carrière un peu particulière, parce que dans les années 2000, deuxième partie, quand il est à la Roma, tu te souviens du fameux Roma-Lyon?
Ah.
Qui au début de l'after avait été une des grandes soirées.
Le fameux passement de jambes de Mancini.
Voilà, ouais. Donc tout le monde se souvient de cette Roma, Totti, De Rossi. C'est une Roma spectaculaire pendant 2 ans, vraiment fantastique, qui avait d'ailleurs sorti, Fred, tu dois te souvenir, le Real.
Le Real, bien sûr, en 8e.
Dans un match pareil, très spectaculaire.
Si je me souviens bien, il gagne à Rome et il gagne au Bernabeu.
Alors, il y avait à ce moment-là peu d'équipes qui jouaient de cette façon, c'est-à-dire plutôt d'une façon comme on le voit beaucoup aujourd'hui. C'est-à-dire avec une espèce de pressing assez intense, récupération haute et verticalisation immédiate. Et c'est assez novateur quand il le faisait.
Il y a un faux neuf, Daniel.
Pardon?
Et un faux numéro 9, parce que tout le monde a parlé de Guardiola sur Messi, mais 2 ans avant, Spalletti qui avait mis Totti à ce faux numéro 9.
Exactement, c'était assez novateur à l'époque. Aujourd'hui, il y a plein d'équipes qui jouent comme ça, mais après, c'est bizarre parce que Spalletti a dirigé pas mal d'équipes. Bon, il s'était fracassé à Manchester, sa Roma s'était fracassé à Manchester United, dans un 7-1 totalement fou. Derrière, sa carrière, elle est un peu à trous. Il a entraîné pas mal de clubs. Moi, je pensais qu'il était un peu cuit, qu'on retrouverait jamais son jeu à Spalletti. Et là, d'ailleurs, on en a parlé à la mi-temps du match. Immédiatement, j'y repensais. Je me suis dit, tiens, c'est le Spalletti de la fin des années 2000, qui était un entraîneur dont on parlait beaucoup, un peu novateur. Là, ce qu'il arrive à faire à Naples, c'est ça.
Ouais, et puis ça reprend ce qu'il avait fait. Quand tu vois Raspadori en faux numéro 9, tu comprends, en fait. Tu comprends, c'est les mêmes mécanismes.
Il est en train d'exploser, Raspadori, là. Hein.
Mais ouais, parce que il est capable de marquer des buts, il est capable de prendre la profondeur, il est capable de faire jouer les autres, il est capable de reculer pour faire jouer les autres, il est bon techniquement, il est très intelligent. Alors, je suis pas en train de dire que c'est Totti, mais il a des qualités qui font que aujourd'hui, il faut quand même préciser.
Il va même s'imposer en équipe nationale. Hein.
Non, mais ça fait des semaines que Naples joue sans sa recrue la plus chère de l'histoire, numéro 9, Victor Osimhen.
C'est vrai, on l'avait même oublié, c'est vrai, t'as raison, faut le dire.
Et pour autant, le jeu est là, en fait. Et aujourd'hui, tu te demandes si Raspadori correspond pas plus, moi je pense que oui, à l'idée du football que se fait Spalletti pour son numéro 9 que Victor Osimhen. Et honnêtement, très sincèrement, Spalletti, c'est un des coachs les plus sous-cotés. Tu dis que c'est une carrière à trous, c'est vrai, parce qu'il avait choisi aussi l'exil avec un peu d'oseille au Zénith Saint-Pétersbourg. Et dès que tu sors un peu des radars européens, enfin des européens, c'est un peu plus compliqué.
Non, mais après, il va à l'Inter, derrière,
c'est une des pires équipes de l'Inter avec, je pense qu'il a, enfin, c'est même pas que je pense, c'est que je le sais, il a beaucoup de mal avec les stars qui ont des gros égos. C'est pas pour rien si à chaque fois qu'il va dans un club, le capitaine légendaire part. Totti à la Roma.
À l'époque avec Totti, De Rossi, il en a des stars quand même.
De Rossi, c'est pas une star, c'est pas ce que j'appelle une star. C'est pas un mec avec un ego comme avait Totti, comme avait Icardi à l'Inter, comme avait Insigne au Napoli. Donc ça lui a joué des tours, mais dans la configuration un peu underdog.
Ouais, c'est ce qu'il préfère, c'est ce qu'il aime, ouais. C'est
exactement.
Vrai.
Ouais.
Merci Johan. À demain
soir. Merci à vous, monsieur. Ciao, ciao.
Polo, je vais raconter ce qui s'est passé pour la VAR entre Porto et Leverkusen pour ceux qui ont raté ça. Vas-y. Parce que c'est quand même du haut niveau. Ouais. Donc Porto marque un but. Et voilà, peu, on refait et tout, un peu de flottement. Et là, l'arbitre dit non, but refusé. Pénalty pour Leverkusen. Là, tu dis, c'est quoi ce délire? Donc il a remonté, ils ont remonté le fil, bien sûr, l'action est dans sa continuité. Bon, alors, ça s'est déjà vu, on l'a vu en Ligue 1, par exemple, plusieurs reprises déjà.
Séville-Real Madrid il y a deux saisons.
Mais c'est vrai que quand ça arrive, ce genre de truc, tu dis, mais c'est pas possible, quoi. C'est ridicule.
Alors, moi, j'ai une suggestion. C'était un modèle de contre de Porto. Oui. En plus, c'était vraiment un beau. Et puis, n'oublie pas qu'à la 16e minute, si je me rappelle bien, il y a Hudson Odoi qui voit un de ses buts aussi qui est annulé parce que. Oui. 30 secondes avant, alors qu'il y avait un contre merveilleux aussi de Leverkusen, on annule un but qui était pour moi.
Oui, complètement. Non, mais ouais. Je ne juge même pas si c'est pour l'équipe ou l'autre, c'est juste le truc. Alors, suggestion, arrêtons, ne remontons pas à partir du moment où le ballon a passé la ligne médiane, par exemple. Parce que le jour où tu as une action qui dure 5 minutes, sans se stopper, tu remontes jusqu'où, en fait, enfin, bref, c'est une aberration totale.
Il y a plein de choses, mais tu sais, il y a eu, alors tout le monde connaît ma position sur la VAR, mais en Allemagne, on en a beaucoup parlé cette saison, je t'en avais dit, Gilbert, qu'on avait dit, alors c'est les 5 ans de la VAR, il n'y a rien à fêter, mais surtout, il y a les études faites par Kicker qui fait que les arbitres ont baissé de niveau. Parce qu'ils sentent plus le jeu, plus rien.
Parce qu'ils sont déresponsabilisés, par ailleurs.
Exactement. Et même le système de primes et tout ça, comme ils sont faits, en gros, si c'est des bons petits soldats, tu vois, ils gagnent plus que des gars qui se rebellent un peu, tu vois. Et ben, ça, c'est le système très classique de.
Pour respecter les consignes à la lettre, sinon t'es sanctionné.
Exactement.
Ils ont peur de se tromper, ils ont peur d'être corrigés par la VAR.
En fait, arbitre, c'est l'armée. C'est, tu vois, t'as un lieutenant, et si tu obéis pas au lieutenant, bah, tu dégages, tu vas au newf.
Voilà. Alors, juste pour la rencontre là. Alors moi, j'ai pas vécu un grand mardi, si tu veux, de Ligue des Champions, dans le sens où beaucoup des équipes que je regardais sont pas en grande forme, et c'est le cas de Leverkusen. Porto n'est pas non plus un grand Porto en ce moment, donc il y a eu des fautes techniques assez impressionnantes et à mon avis indignes d'un match de Ligue des Champions. Honnêtement, il y a le penalty en Patrici qui n'a toujours pas marqué un but en Ligue des Champions. C'est quand même assez dramatique. Et quand même, il y avait de la place, notamment en première mi-temps. Pour marquer à Porto, et finalement ça fait 2-0 pour Porto. Leverkusen a perdu deux joueurs. Frimpong a trouvé le moyen d'être exclu à la 90e, alors pour un deuxième carton jaune, alors qu'il y avait déjà 2-0 pour Porto. Et puis Andrich a pris un nouveau carton jaune, donc ça va être compliqué. Donc la pression est évidemment sur Leverkusen, et même les journalistes sont en train de entre guillemets, de lâcher complètement Seoane en disant qu'il c'est plus tenable sa position. Alors que quand tu vois la rencontre de ce soir, tu sens que l'équipe, elle a pas lâché non plus. Mais il y a le problème de confiance, il y a les fautes techniques, etc. Et comme t'as encore une fois, t'as pas un grand Porto, et contre Sao, a eu d'énormes soucis, je crois, après la déculottée qu'ils se sont pris contre Bruges. Ça, c'est pour passer la balle à Fred. C'était pas un grand match, mais en tout cas, c'est une configuration dans ce groupe formidable.
Merci Polo, à demain.
Merci, ciao, ciao.
Salut Polo.
Ciao. Oui, finition avec l'Atlético. C'est vrai que Bruges, c'est impressionnant. Bruges a pris 0 but pour l'instant en Ligue des Champions.
Étonnant. 7 buts marqués, 9 points.
Exactement.
Sur victoire. Bon, ils sont qualifiés quasiment. Enfin, paraît impossible qu'ils ne soient pas qualifiés.
Griezmann est venu avec des cheveux bleus, il a raté un péno.
Alors, on se pose des questions pour l'équipe
Griezmann,
de France.
Griezmann, en fait, ne veut plus mettre un péno jamais dans sa vie, l'histoire.
Mais Benzema loupe un péno samedi, Griezmann ce soir. C'était le péno qui aurait pu faire le 2-1, donc qui aurait donné un peu d'émotion à ce match. L'Atlético, c'était pourri. Ils ont joué 15 minutes sur l'ensemble des 90 minutes, quoi. Voilà, c'est pathétique. C'est vraiment pathétique. Simeone, ça marche plus. C'est-à-dire que il s'est encore pris un carton ce soir, le voir gesticuler et tout ça. Mais on a l'impression que le ressort est cassé, en fait.
Avant, il motivait son équipe. Désormais, il gesticule.
Ben, c'est un peu ça. Bravo. Non, mais c'est ça. Non, mais ça marche plus. C'est-à-dire que les mecs, ils sont pas bien sur le terrain. Il n'y a pas d'envie. Il n'y a pas de, voilà. À un moment, il est là depuis 11 ans maintenant. C'est trop, quoi. C'est trop. Et cet Atlético. Mais vous savez, le pire, c'est que tu regardes ce soir, l'Atlético a perdu 2 matchs. Mais comme Bruges à 9 points, Porto 3 points, le Bayern Leverkusen 3 points, l'Atlético 3 points, ils peuvent encore se qualifier. Et qu'est-ce qu'on dira en Espagne? Ah ouais, finalement, ne jamais enterrer Simeone, il est toujours là, etc. Et on réglera pas le problème. Non mais tu vois, c'est alors que le jeu est pathétique, pathétique.
Merci Fredo, bonne soirée.
Merci les amis, à demain.
Je t'ai envoyé un cadeau, hein.
Et forcément. Oui, je vais lire, ça m'intéresse.
Tout s'explique, cet arbitre. Je te l'ai dit qu'il y aura des choses. De raconte-nous demain soir. Hein.
Je voulais qu'on prenne le temps de parler de Lyon, mais on n'a plus le temps, malheureusement. En deux mots, allez sur rmcsport.fr, vous avez tout. Ola se dit, on ne s'est pas trompé sur le recrutement. Go vous dit, Ola s'est entouré de personnes incompétentes. Voilà, je vous ai dit l'essentiel.
Oui, c'est un bon résumé, oui.
Voilà, tiens, il y a un podcast OL qui est en ligne avec Fred Guerra qui parle de tout ça, je vous le conseille. Et puis je conclurai comme j'ai démarré et je remercie BBA34D sur Twitter qui m'envoie la déclaration de Vitas Gerulaitis qui, après avoir perdu 16 fois d'affilée contre Connors, le bat en demi-finale du Masters, on est là en 1980, il arrive en conférence de presse, il dit, et que cela vous serve de leçon à tous, personne ne bat Gerulaitis 17 fois d'affilée. C'est génial, j'adore. Ça peut fonctionner pour l'OM. Que tout le monde le sache, personne ne peut battre l'OM 17 fois d'affilée.
Bonne nuit.
Bonne nuit, à demain soir avec une nouvelle soirée Ligue des Champions. Bye bye.
RMC jusqu'à 12h30.
L'After Foot.